L'évangile pour le couple. L'évangile pour le couple. Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, nous continuons notre parcours sur l'appel missionnaire auprès des couples. Et là, nous allons avoir deux émissions. La première, évangéliser à la suite du Christ. Et puis la semaine prochaine, évangéliser avec l'Esprit-Saint. Et donc, bien sûr, puisque c'est lui qui nous a commandé de missionner, d'annoncer l'Évangile, de témoigner de cet Évangile dans nos maisons, en tant que couple, particulièrement dans nos maisons, mais aussi, bien sûr, à l'extérieur, dans différents engagements que nous pouvons avoir, notre travail, etc. C'est à la suite du Christ que nous évangélisons, donc nous évangélisons avec lui. Alors pour cela, Maud, un premier évangile, l'évangile de Marc.
Au chapitre 16. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création, et celui qui croira sera baptisé, et il sera sauvé. Les disciples s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient.
Voilà, et on pourrait prendre plusieurs textes de ce même acabit pour illustrer cet envoi des disciples. Et c'est intéressant dans ce petit évangile, petit texte d'évangile, de souligner « ils s'en allèrent prêcher en tout lieu ». Donc il n'y a aucun lieu qui n'a pas à recevoir la parole du Seigneur et la parole du Christ.
Et en tous ces lieux, le Christ est toujours à leur côté, puisque c'est lui-même qui les envoie, et il est dit dans le texte, le Seigneur agissant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc au cœur de notre mission, le Christ est toujours à nos côtés, il nous accompagne. Il nous dit aussi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes pas seuls, et ce qui a été dit il y a 2000 ans continue à s'appliquer pour nous aujourd'hui. Toute notre mission se fait avec le Christ et en son nom, et c'est lui-même qui agit au travers nous.
Oui, et puis c'est important de dire, il est avec nous, pas simplement je suis avec vous, je vous bénis, je vous accompagne, etc., simplement comme une présence ou comme une force, mais le Seigneur agit, c'est-à-dire que nous témoignons, nous parlons, nous vivons, mais quand c'est au nom du Christ, eh bien, le Seigneur agit, c'est-à-dire qu'il y a des actes qui sont posés, il y a des transformations qui s'opèrent, il y a des cœurs qui sont touchés et qui confirment la parole. Si jamais nos paroles que nous disons au nom du Christ, finalement, ne portent pas du fruit, eh bien, nous sommes des menteurs, tout simplement des menteurs. Et donc, ce qui est important dans l'expérience, notamment des actes des apôtres, qui est notre modèle, comme nous le rappellent constamment Jean-Paul II et Benoît XVI, c'est que la mission est confirmée, la mission, la prédication doit être confirmée par des signes, par des cœurs qui sont touchés, etc. Pour bien montrer que le Christ est agissant, que le Seigneur est dans toute son humilité, agit puissamment au cœur du monde, y compris dans ce 21e siècle.
On pourrait aussi illustrer par le texte de la pêche miraculeuse. L'action du Christ est significative puisqu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, mais à la parole du Christ, ils ont jeté leur filet là où il indiquait, et là, le filet a été rempli de poissons à tel point qu'il débordait. Donc nous avons effectivement dans la mission à la fois à écouter ce que le Seigneur nous dit de faire et à le mettre en œuvre en ayant foi que c'est lui qui agit au travers de nos pauvres actions, de nos pauvres paroles et de ce que nous essayons de dire. Malgré nos maladresses, il peut se servir de nous pour faire que la mission porte du fruit. Et c'est quand même ça l'objectif de la mission.
Oui, c'est un point vraiment important. Je crois qu'on avait fait une émission assez complète sur cette question-là il y a quelques mois sur les œuvres de Dieu et les œuvres pour Dieu. Et dans l'Église, souvent, on fait des œuvres pour Jésus. On va faire des choses pour Jésus, mais mon Jésus ne nous y a pas appelé. Donc effectivement, à un moment, on se pose des questions. Pourquoi notre apostolat ne porte pas de fruits? Eh bien, souvent, c'est les œuvres pour Dieu. On l'a fait pour Dieu. Les apôtres, pendant cette pêche, ils ont péché. C'est eux qui ont décidé. C'est nous qui avons péché. Mais ce n'est que sous l'invitation du Christ que cette pêche porte du fruit. Et donc c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller, d'où l'importance de la prière, de la communion avec l'Église, de l'obéissance à l'Église, de discerner les appels du Christ. Donc c'est très important de ne pas partir tête baissée, mais d'abord d'être dans cette écoute de ce que le Christ nous dit.
Oui, on parlera dans l'émission suivante de la docilité à l'Esprit Saint, mais c'est effectivement dans le temps de contemplation et où on se nourrit de la présence du Christ dans la prière que l'on va discerner les appels du Christ et dans notre vie quotidienne et saisir les perches que le Christ nous envoie pour pouvoir annoncer son nom.
Et puis, autre point aussi important de cette évangélisation à la suite du Christ, nous ne pouvons vraiment évangéliser qu'à la mesure de notre rencontre intense, profonde, bouleversante du Christ et de l'accueil que nous avons fait du Christ au cœur de notre vie. Jean-Paul II, je crois qu'on l'a cité dans une des émissions précédentes, disait « Celui qui a vraiment rencontré le Christ, il ne peut le garder pour lui-même, il doit l'annoncer. Il ne peut et il doit. » Ce n'est pas des paroles, vous savez, ça serait bien peut-être que, si vous y pensez, non, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus vigoureux. Voilà, c'est-à-dire c'est une question, c'est comme un impératif intérieur. Et Jean-Paul II insiste vraiment sur cette articulation organique, pourrait-on dire, de la rencontre du Christ et de l'annonce du Christ. Et plus encore, et je crois, Mo, tu le soulignais même la dernière fois, tu le rappelais, Jean-Paul II disait « Si je n'ai pas le goût de l'annoncer, mais est-ce que j'ai vraiment rencontré le Christ ?» Voilà. Si jamais j'ai pas le goût, en me disant « Jamais j'ai toujours des bonnes excuses pour ne pas l'annoncer, mais est-ce que j'ai vraiment rencontré Jésus vivant ? Est-ce que je suis simplement adhérent à l'Église et je pratique des œuvres religieuses et pieuses ? Mais est-ce que j'ai vraiment rencontré le Christ ?»
Et ce qui est incroyable, c'est que justement ce mécanisme même de la mission se nourrit même des fruits de la mission. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on annonce le Christ, on voit les œuvres du Christ dans les cœurs et à ce moment-là, ça nourrit notre propre foi, notre propre zèle apostolique. Quand on voit un cœur touché, une vie transformée, libérée par l'action du Christ, ça nous renvoie aussi à notre propre vie, ça nourrit notre propre foi en la résurrection du Christ et en son action. Donc, en fait, plus on annonce et plus on est nourri et plus notre foi grandit.
Voilà, il est important également, Maud, que nous puissions nous conformer au modèle du Christ missionnaire. Alors, il y a plusieurs aspects, bien sûr, dans cette parole, modèle du Christ. D'abord, il parle à temps et à contre-temps. Il parle avec autorité, en alliant et en combinant, selon les situations, force et douceur, interpellation et enseignement, gestes et paroles, tendresse et autorité, etc., etc. Il n'y a pas un seul modèle du Christ, mais peut-être ce qui le caractérise, c'est qu'il parle à temps et à contre-temps. Le tempo de la mission, c'est lui qui le donne, avec l'Esprit Saint, c'est pas le monde qui le donne. Et quand il a quelque chose à dire, eh ben il le dit. Et qu'il le dise avec force ou avec énormément de tendresse, et bien voilà, il parle à temps et à contre-temps.
Et il parle toujours de son Père, il renvoie à l'amour de son Père. Donc nous aussi, nous devons annoncer l'amour du Père qui est tendresse et miséricorde, et tout ça dans un esprit évidemment d'humilité très grande, parce que c'est pas parce que nous annonçons que nous sommes meilleurs que les autres, nous sommes nous aussi dans un processus de conversion, nous aussi dans un processus continu où nous ne cessons de rentrer dans la profondeur de cet amour du Père, mais plus nous l'annonçons, plus nous le découvrons, plus nous rentrons dans cette merveille de l'amour inconditionnel que le Père a pour chacun d'entre nous.
Et comme dit notre cher frère et père, le père Manaranche, on n'est pas des héros, mais on est des vénards. Voilà. Et donc, on n'est pas des héros de témoigner, on n'est pas des héros d'annoncer l'Évangile, mais ce n'est qu'un débordement. C'est parce que nous sommes des vénards d'avoir accueilli cette parole qui a transformé nos vies que nous ne pouvons que la faire déborder et la présenter.
Oui, rappelons-nous cette autre parole du Christ qui nous invite à être des simples serviteurs, c'est-à-dire que nous ne faisons que notre travail logique, ce travail étant issu d'une telle joie qui nous habite que nous ne pouvons que la rayonner. Et nous la rayonnons d'autant plus si nous sommes saisis par cette compassion vraiment intérieure, c'est-à-dire d'avoir les entrailles transpercées, comme on parle des entrailles du Père, qui sont bouleversées par la solitude et la détresse de ceux qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle, qui ont une vie loin du Christ et qui s'égarent et qui cherchent dans des pis-allers à trouver des bonheurs qui vont leur donner le goût de vivre. Et si tant et tant de personnes autour de nous ont tellement de difficultés à trouver le sens de la vie, peut-être est-ce aussi parce que nous n'avons pas annoncé qui était le sens de la vie.
Et puis c'est aussi d'avoir dans notre cœur finalement un sentiment de profonde compassion, c'est-à-dire d'être particulièrement attiré, et notamment sur les questions conjugales, puisque c'est notre sujet majeur et transversal de toutes ces émissions, d'avoir vraiment une compassion pour les couples qui ne connaissent pas le Christ et qui sont en situation de souffrance aiguë, de déchirure. On pense à des fiancés, on pense à des couples qui sont en difficulté, etc. Enfin, des familles, je pense à différentes sessions avec des enfants qui sont aussi en souffrance, etc. Et souvent, quand on est dans ces rencontres, vraiment, il y a un sentiment de profonde compassion. Souvent les larmes nous viennent aux yeux de vraiment de voir combien il y a cette souffrance d'être séparé ou d'avoir le sentiment d'être séparé de cet amour du Christ. Et c'est comme illustré par l'évangile peut-être du bon pasteur qui quitte ses 99 brebis pour aller voir la brebis qui est perdue. Et c'est vraiment et nous avons notre parole, notre mission est d'autant plus pertinente que nous sommes habités par cette compassion, par cette douleur.
Oui, et évidemment, ça veut dire aussi qu'on est capable de mettre de l'énergie pour une seule brebis. Donc, le Christ est allé chercher la brebis qui manquait. Parfois, pour une seule brebis qui n'a pas rencontré le Christ, il nous faut déployer tant et tant de patience, d'écoute, de disponibilité pour pouvoir lui annoncer de façon ajustée la parole de libération.
Voilà, on peut finir cette première partie en rappelant ce que disait Jean. Pour conclure sur sa mission et pourquoi il a une mission aussi exceptionnelle, Jésus connaissait, dit Jean, ce qu'il y avait dans l'homme. Et voilà, nous devons suivre Jésus parce qu'il va nous enseigner ce qu'il y a dans l'homme pour mieux justement conduire ce chemin vers l'Évangile avec l'aide de l'Esprit-Saint. On se retrouve dans un instant.
Mon église prie que le ciel s'éclaire, que les fils enfants. Oui, c'est vrai. Moi, je le crois. Je vis pour toi.
Essayer de suivre le Christ dans son périple missionnaire, dans son état d'esprit, sa personnalité, son fonctionnement, je ne sais pas comment on peut dire, missionnaire. Et donc, nous avons déjà abordé dans la première partie plusieurs aspects de cette dynamique, de son profil missionnaire. Et en cette deuxième partie, Maud, il faut aussi aborder la question de la croix.
Et de la difficulté missionnaire.
C'est-à-dire voilà, que suivre le Christ, c'est aussi accueillir la croix au cœur de la mission.
Accueillir la croix, accueillir le fait qu'on doit donner sa vie pour ceux qu'on aime, donc ceux qu'on, à qui aussi on annonce la parole, ça exige évidemment de passer par une docilité, une pauvreté, et une obéissance à ce qui se passe, et puis accepter la souffrance inhérente d'éventuelles difficultés de la mission. Le Christ est allé jusqu'à la mort. Donc nous savons nous aussi que en suivant les pas du Christ, ça peut aller parfois jusqu'à des morts concrètes dans notre expérience apostolique.
Voilà, ce qui fait vraiment marcher dans la mission, c'est l'appel de son père, c'est l'amour de son père, c'est la mission qu'il a reçue, etc. Et ce n'est pas forcément les fruits apostoliques immédiats. Alors justement, il y a quelque chose qui est vraiment très très caractéristique. Quel succès apostolique de Jésus le jeudi saint après 3 ans de ministère. Une foule haineuse et hystérique à son égard, un jugement d'hérétique de la part des juifs, un jugement de dangereux fauteurs de troubles de la part des romains, et une débandade apostolique généralisée chez les disciples. Apparemment, comme résultat, au bout de 3 ans, il n'y a pas plus catastrophique. Et il finit sur le gibet, sous les cris de la foule, etc. Donc, effectivement, c'est à des moments, notre apostolat, notre mission, à des moments, c'est galère. Ça peut être terrible, très douloureux. Le mystère de la croix est donc incontournable de la spiritualité, de la dynamique missionnaire, Maud.
Oui, mais il faut bien comprendre la différence avec le dolorisme. Il ne s'agit pas de s'y complaire, mais de l'accepter. Parce que quand on annonce la parole et qu'on annonce la conversion que le Christ, auquel le Christ nous engage lorsqu'on découvre son amour, forcément il y a des résistances, forcément ça secoue, forcément on n'a pas envie d'aller dans ce sens-là. Sauf si on perçoit bien sûr le bonheur que c'est d'être avec le Christ, mais dans l'intervalle, la première rencontre souvent avec les personnes, on ne se fait pas forcément accueillir bras ouverts. On est parfois rejeté ou critiqué ou méprisé, on nous prend pour des cinglés, des doux rêveurs, des utopistes, enfin on a le droit à toutes sortes de critiques. Finalement, c'est pas aussi simple que ça de toucher un cœur, mais c'est parfois dans cette pauvreté acceptée que justement les cœurs vont s'ouvrir.
Oui, pensons vraiment pour les couples et les familles, ce que ça peut être d'abord par des enfants, etc., souvent qui viennent ados, etc., qui nous ringardissent complètement. Ça peut être au niveau d'amis qui nous trouvent complètement ringards, ça peut être des collègues de travail qui nous disent « Oh, mon pauvre chéri, t'es chrétien encore, toi », etc., etc. Ou alors des choses dans les médias et tout qu'on entend, ça peut recouvrir beaucoup d'aspects différents. Qui ne veut pas endosser des échecs, des revers, des railleries, des critiques, des humiliations, des ingratitudes, c'est sûr que la mission va être difficilement supportable pour lui. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on constate, c'est qu'à un moment, il y en a qui ont pris tellement de revers qu'à un moment, ils se planquent un peu parce que c'est un peu trop difficile à vivre. Et pourtant, le Christ a été clair. Celui qui ne prend pas sa croix pour marcher avec moi n'est pas digne de moi. C'est le Christ qui le dit dans le chapitre de Matthieu, au verset 38. Voilà. Et c'était une parole liée à l'appel à la mission. Donc la croix, c'est aussi d'être rejeté, d'être critiqué, d'être méprisé, d'une manière ou d'une autre. Et donc, je crois que c'est très important de ne pas cacher cet aspect de la mission. Maud.
Oui, ce qui est étonnant, c'est d'ailleurs que quand Jésus endosse ses croix, endosse ses railleries, récupère des gens qui le jettent des villages où il vient, jamais cela ne déclenche de violence en lui, mais de la compassion et de la miséricorde. Même si ses paroles sont fermes, il reste compatissant pour la personne. Et ça, c'est une attitude de fond qu'on doit avoir en mission, accepter la croix certes, mais dans une douceur et avec humilité. L'autre ne nous a pas entendus, nous sommes méprisés, pas compris, mais si nous l'accueillons comme faisant partie de la mission en soi, ça veut dire que nous effaçons devant l'œuvre du Christ. Ce n'est pas nous qui sommes en question. Si jamais nous sommes humiliés, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le message du Christ quand même ait été donné, envoyé dans le cœur de la personne, et après éventuellement ça portera du fruit. Et on connaît des tas de témoignages de personnes qui ont raillé les chrétiens, à commencer évidemment par Paul, qui les a persécutés, mis à mort jusqu'à ce que le Christ se révèle à lui. Et on peut aussi lier cette conversion de saint Paul à la grâce d'Étienne qui a offert sa vie pour ceux qui étaient en train de le condamner et de le faire mourir. Donc il y a aussi là évidemment un fruit de la mission qu'on ne voit pas toujours, mais qui se vit selon selon la disponibilité de notre cœur. Si nous restons dans la douceur, si nous restons dans l'acceptation de ces railleries, alors peut-être que ça porte de fruits dans le cœur même de la personne à qui nous parlons.
Alors, dans toute cette question de la spiritualité missionnaire de la croix, il ne faut pas avoir aussi là-dedans, derrière, une espèce de effectivement, tu as dit un mot de dolorisme, de gloriole subtile, cachée, etc., au travers de ça, parce que le Christ ne nous laisse pas simplement avec cette croix. À la croix mène toujours la résurrection. Et c'est pour ça que le Christ dit également « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, car il est aisé et ma charge légère. Vous trouverez ainsi le repos de vos âmes, car je suis doux et humble de cœur. » Voilà, c'est dans le chapitre de Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. Et donc, effectivement, ces épreuves, si elles sont vécues avec le Christ, dans une mission qu'ils nous ont confiée avec le Christ, et bien d'une manière ou d'une autre, quelque part on trouve la paix, on trouve la sérénité au fur et à mesure.
Oui, Dieu ne nous envoie pas non plus, Alex, parce qu'on n'est pas très gai dans cette première, deuxième partie de l'émission, Dieu ne nous envoie pas non plus au casse-pipe pour
rien. Ah non,
rien.
C'est très, très important de le souligner.
Voilà, c'est-à-dire que nous avons évidemment des difficultés de la mission, nous avons des rejets, des mépris, etc. Mais il nous envoie quand même pour convertir le monde et annoncer la bonne nouvelle. Donc nous ne sommes pas non plus dans un désert total. Il y a certes des combats, des tribulations, et par exemple, il y a un chapitre très connu de Paul où il énumère toutes les bagarres qu'il a eues, les naufrages, les mises en prison, les coups de fouet.
Ça, les galères, il les a eues. Hein.
Et tout ce qu'il a vécu, mais quelle fécondité à sa mission, quelle merveille que tout ce qu'il a fait pour le Seigneur et pour répandre la bonne nouvelle dans tous les endroits où il a pu aller.
Voilà, et ça, je crois que c'est très important. Il y a le mystère de la croix, c'était redit, si le grain ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Et donc, si le grain meurt, il porte du fruit. Dit l'évangile au chapitre 12 de l'évangile de Jean. Et donc de cette croix vient le fruit. Le Seigneur nous envoie en mission pour convertir le monde. Il ne nous envoie pas au casse-pipe. Hein. Il ne nous envoie pas au casse-pipe. Donc à un moment, effectivement, l'épreuve de la mission doit être là, les difficultés que nous avons dans la catéchèse, dans les différentes missions, auprès de nos enfants, etc. Mais à un moment ou à un autre, le Seigneur doit porter l'esprit. Si nous sommes vraiment dans la main du Seigneur, si vraiment il a transformé nos vies, à un moment ou à un autre, la mission doit porter du fruit. Voilà. Le Christ dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Effectivement, c'est la galère, c'est la difficulté, mais aussi je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc c'est pas un fruit de pacotille, hein. C'est un fruit qui doit demeurer, un fruit apostolique. C'est pour ça que ressort après des années peut-être de difficultés ecclésiales un peu, etc. Aujourd'hui, toute une réflexion sur la théologie de l'Église en croissance. Notre Église doit être en croissance. Elle doit porter du fruit. Nous devons, l'Église doit conduire un certain nombre de personnes qui ne croient pas ou qui ne croient plus à la rencontre du Christ, à l'accueil du Christ, qui doivent peu ou prou s'agréger au fur et à mesure à la communauté. Et donc, nous devons porter du fruit. Et si jamais on ne porte pas du fruit, et bien quelque part, il faut refaire un discernement un peu de fond sur notre manière d'opérer.
Oui, parce que le fruit missionnaire, finalement, quel est l'objectif? Le Christ nous dit lui-même, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est la condition même du disciple. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Et alors vous devenez mes disciples. On trouve ça en Jean 15. C'est-à-dire que nous sommes disciples aussi parce que nous portons du fruit. C'est-à-dire qu'un disciple qui dit « Oui, oui, Seigneur, je t'aime », mais qui ne parle jamais de lui à personne, eh bien on peut...
Ou alors qui parle, mais qui, quelque part, sa mission ne porte pas du fruit parce que, pour X raisons...
Voilà, alors il doit s'interroger en disant « Mais suis-je vraiment le disciple du Christ ?» Donc, il y a des fruits qui sont évidents, et puis il y a des fruits qui sont aussi intérieurs, donc il faut discerner, évidemment. Mais en tout état de cause, nous sommes quand même appelés à annoncer au monde la bonne nouvelle et à ce que des personnes découvrent la joie d'être avec le Christ et de vivre avec lui.
Et c'est important, Maud, cette parole que tu as citée de Jean, c'est que le fruit missionnaire est à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que si les chrétiens, par leur travail apostolique, ne développent pas des fruits missionnaires, eh ben on ne rend pas gloire à Dieu. La mission rend gloire à Dieu par, je dirais, l'adhésion, l'accueil de nouveaux croyants qui accueillent l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il est très important, à des moments, de bien identifier qu'à des moments, au niveau théologique pastoral, on a parlé quasiment d'une théologie de l'échec pastoral. On a donné raison à chaque fois que c'était la galère et que finalement, que nos missions ne portaient pas du fruit. Alors c'est vrai, il y a la spiritualité de Charles de Foucault, etc. Il y a la spiritualité aussi de l'enfouissement, de la discrétion, c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la mission. C'est pas toute la mission. Sinon, bah écoutez, on serait musulman de père en fils depuis 1000 ans, et peut-être bouddhiste ou hindouiste. Hein. Donc, il nous faut vraiment retrouver cette dynamique, ce zèle missionnaire, en disant, mais le Seigneur nous a envoyés pour aller, entre guillemets, convertir le monde. C'est pas nous qui convertissons le monde, c'est l'Esprit Saint au travers de ces pauvres serviteurs.
Oui, encore une fois, remettons nos pas dans ceux des apôtres, et sans eux, la foi ne serait pas parvenue jusqu'à nous. Et nous aussi, nous avons à jouer ce rôle d'apôtre au nom du Christ et pour le Christ, pour rendre gloire à Dieu et donner cette vie nouvelle par l'action de l'Esprit Saint dans les cœurs à tous ceux et celles qui nous entourent.
Voilà, en tout cas, c'est à ce zèle missionnaire que nous vous invitons. Nous prions vraiment pour que chacun de nous puissions grandir profondément dans cette joie de l'annoncer, dans cette communion ecclésiale, sachant que c'est lui qui conduit tout et qui fait croître l'Église, parce que c'est pour le bonheur de tous les hommes. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse chacun des conjoints, des couples, des familles, de vos enfants, qu'il vous comble de bonheur, car c'est lui la source de notre vie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.